Le magazine des Nations Unies.
La MONUSCO prête pour la journée du 19 décembre, tout en espérant que le dialogue du centre interdiocésain autour de la CENCO donnera des bons résultats. La mission des Nations Unies a conçu un mécanisme d'intervention en cas de débordement. La RDC enregistre près de 2 milliards de dollars de pertes consacrées à la lutte contre la malnutrition. C'est ce qui ressort de la télé de validation des résultats d'une étude sur la faim dans le pays. Les détails dans cette édition. Radio Capi fête ses 15 ans. L'événement est célébré à travers des conférences, expositions photos au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, mais aussi par des journées portes ouvertes. Dans ce numéro, le magazine propose les réactions de quelques visiteurs sur le travail abattu par la Radio de la Paix en 15 ans.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le 19 décembre, c'est déjà ce lundi, donc demain, une journée pour laquelle la MONUSCO a mis en place un plan de contingence pour parer aux éventuels dérapages en rapport avec la crise politique liée à la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila. Mercredi dernier, le porte-parole de la MONUSCO a donné les grands axes de ce plan. Ses propos sont recueillis ici par Honoré Missenga Kalala.
Au niveau de la MONUSCO et des Nations Unies dans son ensemble, nous avons préparé ce qu'on appelle un plan de contingence. Et ce plan de contingence, c'est un plan de protection approprié en cas de détérioration de la situation. En termes clairs, nous avons renforcé notre présence à Kinshasa et aussi dans d'autres localités comme Lubumbashi, comme Goma, etc., etc. Nous avons aussi renforcé des patrouilles journalières, que ce soit de nuit comme de jour. Nous avons renforcé notre capacité de surveillance. Nous avons aussi des équipes mobiles d'évaluation, de suivi, pour voir un peu comment la situation évolue. Et en cas de nécessité, nous sommes prêts à intervenir. Tout en se disant, nous espérons que nous n'allons pas devoir étaler ou mettre en œuvre ce plan s'il y a un consensus et que tout se passe bien.
Deuxième actualité, c'est la validation mercredi dernier à Kinshasa des résultats d'une étude sur la malnutrition en RDC. Il ressort que le pays a enregistré de 1950 à 2014 des pertes de l'ordre de près de 2 milliards consacrés à la lutte contre la sous-nutrition. Dieudonné Kouété, conseiller à la primature et coordonnateur de cette étude, relève les conséquences sur la croissance et le développement de l'enfant. Ses propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Les conséquences sont très énormes au niveau de l'emploi, au niveau de la santé et au niveau de l'éducation. Des enfants ayant souffert de l'insuffisance pondérale qui est autour de 15,8. Et donc les conséquences sont très énormes en termes de redoublement et en termes d'abandon. Et cela se répercute lorsque ces enfants seront adultes sur le marché de l'emploi. Donc ceux qui ont souffert de l'insuffisance pondérale, pour la plupart, vont pouvoir abandonner. Et ceux qui ont souffert du retard de croissance, pour la plupart, vont abandonner et vont se retrouver dans les secteurs manuels qui demandent des capacités physiques pour lesquelles elles ne sont pas suffisamment dotées de ça.
Enfin, Radio Capi fête ses 15 ans. Plusieurs activités sont organisées pour célébrer cet événement. Parmi celles-ci, des journées portes ouvertes qui ont permis au public de visiter les installations de la radio. Jean-Pierre Lali Coco a recueilli les impressions de certains visiteurs, dont le ministre sortant des travaux publics et infrastructures, Fridolin Kachouich. Suivez.
Monsieur Kachouich, bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup. Je venais effectivement de visiter les installations de Radio Capi dans le cadre des journées portes ouvertes pour ces 15 ans d'anniversaire. Je suis fort impressionné par l'assiduité du personnel, le professionnalisme. Il est vrai que nous voulons tous avoir l'information en temps réel, mais ici j'ai découvert qu'il y a des gens qui se sacrifient pour que justement on ait cette information en temps réel. Et j'ai même fait une comparaison, je suis désolé de dire, j'ai vu des projets initiés notamment par les partenaires techniques et financiers, l'Union européenne pour ce qui est de la gestion des immondices dans la ville de Kinshasa pour certaines communes. Il n'est pas bon qu'un travail de qualité comme celui que Radio Capi fait puisse un jour s'arrêter simplement parce que la mission n'est plus là, parce qu'on doit concourir à la paix.
Ça fait plusieurs années que je suis Radio Okapi. Je ne pouvais jamais me poser la question de savoir où c'était situé, où c'était localisé. Donc pour moi, c'était une grosse curiosité aujourd'hui de venir voir un tout petit peu l'environnement dans lequel vous travaillez, dans lequel vous rendez service à nous, le peuple. Et j'étais impressionné, comme je disais tout à l'heure, un tout petit peu dans le couloir, par l'enthousiasme du personnel. L'enthousiasme au travail, l'enthousiasme de communiquer, ce qui m'a vraiment fait plaisir.
Je m'appelle Tabasenge Bakia Placide. Je suis le premier vice-président national de l'UNPC. Donc, ce que nous avons vu à la radio Okapi, à mon avis, la radio Okapi, c'est une grande radio que je n'ai jamais découverte depuis qu'on est là. Une radio qui est d'abord très bien équipée et puis avec un grand nombre de journalistes comme dans une agence de presse. On me parle ici de 200 journalistes à peu près. C'est déjà énorme. C'est un grand morceau. C'est une machine. Je félicite cette radio d'abord parce que c'est une radio pratiquement qui dit la vérité.
Bon, je suis Monsieur Msim Pibouabo Mawete. Je suis président de l'ONG Afrique sans frontières qui se situe à Grenoble en France. À mon séjour ici à Kinshasa, je suis beaucoup Radio Okapi et j'ai appris par la radio, hein, qui est à journée porte ouverte. Et c'est cette curiosité qui m'a amené à venir visiter la radio. Et je ne suis pas déçu en fait par rapport à la qualité d'écoute et matériel que je puis voir dans mes propos.
Je m'appelle Bompingesha Milambo Maravilla. Je suis actrice, chanteuse, journaliste. Voilà. Je suis Radio Okapi. J'ai fait tout au moins 7 ans à la presse, mais ce que j'ai vu à la radio Okapi, ça m'a d'ailleurs donné le goût de venir au moins en stage ici, professionnel. La qualité de travail extraordinaire, tout est impeccable.
Mais mon nom c'est Kamusa Moussango Apocalypse. La radio Okapi m'a formé. Je suivais la radio Okapi sur l'onde courte, c'est ça. Depuis mon village, mon problème était de passer à la radio et puis voir tous ces gens-là qui nous forment et qui nous informent. Et je l'ai vu, je suis content. La radio Okapi, si c'était une plante, c'est cette plante-là qui allait peut-être guérir le VIH-Sida.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La zone de santé de Kikuit Nord, en plein pied dans le programme Village Assaini, initié par le gouvernement avec l'appui de l'UNICEF. Elle compte 14 villages Assaini, dont 11 certifiés. Quelles sont les normes pour certifier un village Assaini? Quels en sont les avantages et les acteurs qui concourent à sa réalisation? Jean-Pierre Elali Coco a approché le docteur Lievin Zingi, médecin chef de zone de Kikuit Nord, lors d'une descente à Kikuit.
Docteur Lievin Zingi, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que nous pouvons avoir aujourd'hui l'état des lieux de village Assaini dans votre zone de santé?
La zone de santé de Kikuit Nord est située dans la ville de Kikuit. Nous avons au total 14 villages Assaini qui étaient entrés dans le programme, mais à l'heure actuelle, nous en avons déjà certifié 11 villages. Il y a 3 qui ne sont pas encore certifiés jusque-là.
14 villages dont 11 sont certifiés. Vous pouvez nous parler de la façon dont vous déterminez si un village est assaini ou pas?
On parle d'un village assaini quand il a accompli les 7 normes. La première norme, le village doit avoir un comité dynamique. Et puis deuxièmement, le village, par rapport à la population, au moins 80% de la communauté a accès à l'eau potable. On doit avoir aussi 80% de la communauté qui utilise une latrine hygiénique. On doit avoir aussi 80% de la population qui connaît la transmission des maladies d'origine diarrhéique ou d'origine hydrique, les maladies des mains sales. Nous devons avoir 80% des ménages qui évacuent hygiéniquement les ordures ménagères. On doit aussi avoir 60% de la population qui se lave les mains de façon hygiénique. Et enfin, au moins une fois par mois, le village est nettoyé.
Est-ce qu'il y a une méthodologie ou même une procédure à suivre pour arriver à avoir un village assaini?
Oui, par rapport à ça, il y a un processus. Nous avons 8 pas. On va des pas 1 jusqu'au pas plutôt 8 pour arriver à certifier les villages. Donc du premier pas, nous passons au deuxième pas, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième et huitième pas. Nous passons par ces pas-là et à côté des pas, nous avons les normes, les 7 normes que je viens d'énumérer. Si le village est passé à travers toutes ces étapes, au moins à la fin, on peut le déclarer assaini.
Quel peut être l'impact d'un village assaini dans le cadre d'une communauté locale comme votre zone de santé?
L'impact ici, c'est en termes de statistiques, hein, parce qu'au début, quand nous intégrons un village, nous considérons les statistiques des maladies diarrhéiques de son centre de santé. Et à travers ça, nous allons voir à la fin s'il y a un impact. Qu'est-ce que nous faisons? Au début, nous faisons une enquête CAP initiale pour avoir l'état de départ de la communauté par rapport aux maladies diarrhéiques. Et à la fin aussi, dès que nous atteignons le 8e pas, qui est le terminus, nous faisons une autre enquête CAP qu'on appelle enquête CAP finale. C'est à travers cela que nous allons comparer les indicateurs qu'on avait au début du processus et voir quels sont les chiffres qu'on a à la fin. Généralement, ici, nous avons constaté qu'il y a une diminution des maladies d'origine diarrhéique, des maladies hydriques ou bien des maladies des mains sales.
Donc, l'impact est positif.
Oui, l'impact est positif. Ça aide vraiment beaucoup nos communautés, dans ce sens qu'on a une diminution, comme je venais de dire, des maladies diarrhéiques, des maladies des mains sales.
Vous avez ces statistiques au niveau des centres de santé ou bien c'est tout simplement au niveau des statistiques dont vous avez parlé tout à l'heure?
Nous avons ces statistiques au niveau du bureau central. Donc, il y a des rapports que nous produisons de façon trimestrielle que nous envoyons à la hiérarchie. Et à travers ces rapports-là, nous pouvons trouver tous ces chiffres ou toutes ces données statistiques qui, disons, confirment ce que je suis en train de dire.
Et voilà, pour terminer, quels sont les animateurs qui interviennent et quels sont peut-être les partenaires avec lesquels vous travaillez sur ce qu'on appelle les villages assaini?
D'abord, au niveau du bureau central, nous avons l'animateur communautaire et puis les superviseurs chargés d'eau, hygiène et assainissement. Il y a le médecin chef de zone qui est le coordonnateur du programme au niveau de la zone de santé. Et au niveau des centres de santé, nous avons l'équipe de facilitation.
Ça, c'est du côté gouvernement?
Oui, ça, c'est du côté gouvernement. Nous avons l'équipe de facilitation où il y a l'IT avec ses collaborateurs et nous avons les comités dynamiques du village assaini. Ça, c'est au niveau vraiment opérationnel, au niveau de l'aire de santé. Par rapport aux partenaires, en tête, nous avons l'UNICEF qui se fait suivre d'autres partenaires encore qui nous viennent en aide pour bonne réalisation de ces programmes.
Justement, lorsque vous parlez de l'UNICEF, quelle est son implication? Qu'est-ce qu'il vous apporte comme assistance?
L'UNICEF, je peux dire, c'est lui le partenaire principal qui amène les nécessaires par rapport à la réalisation de tous ces programmes. Il amène, par exemple, quand nous voulons faire des latrines, des dalles pour les latrines au niveau des villages, l'UNICEF nous amène du ciment, les barres de fer et tout ce qui est nécessaire par rapport à tout ce travail. Nous avons dernièrement lancé un forage d'eau à Kikoti. Là, il a beaucoup joué tous les matériels. Bien sûr, c'est le matériel du gouvernement, mais à travers l'aide de l'UNICEF, c'est vraiment lui qui a beaucoup joué par rapport à ça.
Pour terminer, un village assaini peut avoir combien de membres de la communauté?
Un village assaini doit avoir 100 à 150 ménages. Et dans un ménage, nous avons au moins 6 personnes. La taille des ménages que nous considérons ici. Au moins 6 personnes et on doit avoir 100 à 150 ménages pour sélectionner un village comme village assaini.
Un dernier mot et peut-être un message à envoyer à l'égard de la population et peut-être à vos partenaires qui vous suivent, même au gouvernement.
Pour terminer, nous remercions le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a, à travers le ministère de la Santé, intégré ces programmes dans notre zone de santé. Et cela nous aide beaucoup. Surtout ce que nous ciblons ici, c'est le changement des comportements. C'est ce qui est très très important et parce que la santé n'a pas de prix, dit-on, ces changements de comportement. Si les gens s'approprient de ces changements de comportement, de toutes les leçons ou de tout ce que nous donnons comme sensibilisation, nous pensons qu'il peut y avoir un changement. Et nous remercions grandement l'UNICEF qui a mis ou qui met une grande énergie pour la matérialisation de ces programmes au niveau périphérique. Et aussi nous demandons à notre communauté, à notre population de la zone santé de Kikwit Nord, d'adhérer massivement au programme Village Assaini pour que nous puissions diminuer sensiblement les taux de maladies diarrhéiques ou de maladies dites maladies des mains sales.
Docteur Zingi, merci.
Merci.
Nouvelle en bref, justice d'abord, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale CPI a requis lundi dernier 8 ans d'emprisonnement à l'encontre de Jean-Pierre Bemba. Le sénateur et ancien vice-président congolais a été reconnu coupable de subornation des témoins afin d'obtenir son acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le 11 décembre dernier, l'UNICEF a célébré ses 70 ans. À cette occasion, l'agence a reconnu les progrès réels accomplis par les enfants de la planète, tout en renouvelant son appel à aider les millions d'enfants dont la vie et l'avenir sont menacés par un conflit, une crise, la pauvreté, l'inégalité et la discrimination. Créée en 1946 par l'Assemblée générale de l'ONU, l'UNICEF a été implantée en RDC en 1963. L'organisation agit aux côtés du gouvernement de la RDC sur tous les territoires à partir de ses 14 bureaux. Enfin, le rapport sur le développement humain en Afrique 2016 a été présenté mardi dernier à Kinshasa. Accélérer les progrès en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes en Afrique, tel est le thème qui a été développé par la ministre nationale de la Femme, Enfants et Familles. Ce rapport analyse les défis de l'égalité dans les pays africains sous toutes ses dimensions, à savoir politique, économique et sociale.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le Bureau conjoint des Nations Unies a documenté pour le mois de novembre 2016 plus de 500 violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la RDC. Dans cette émission, notre invité, c'est encore le directeur de cette institution, José Maria Aranaz. Il fait le point de la situation des droits de l'homme du mois passé et répond aux questions d'honoré Misenga Kalala.
José Maria Aranaz, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Alors, le rendez-vous mensuel a été respecté. Vous avez publié un rapport sur la situation des droits de l'homme du mois de novembre 2016. Quelles en sont les grandes tendances ?
Tout à fait. Le Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies à l'RDC a documenté au moins 577 violations des droits de l'homme dans les mois de novembre. Ça veut dire une hausse par comparaison au mois d'octobre.
Qu'est-ce qui explique cette hausse ?
D'un côté, la répression des droits civils et politiques. Aussi, comme l'enquête spéciale que le bureau a lancée sur les événements à Kananga après l'attaque de la milice de Kamuine Nsapu.
À Kananga, il y a eu combien de victimes, combien de violations des droits de l'homme qui ont été identifiées là-bas?
Tout à fait, le bureau a documenté les violations commises par la milice, les destructions des propriétés et les crimes commis, aussi comme les représailles et les exécutions sommaires par la FRDC. Et nous avons envoyé cette enquête aux autorités, enquête préliminaire, et nous sommes prêts à collaborer, à donner l'appui aux autorités pour faire la lumière et traduire en justice tous les responsables de la violence à Kananga, soit du côté de la milice, soit du côté des acteurs étatiques.
Donc, vous avez dit plus de 500 violations des droits de l'homme au mois de novembre. Qui ont été les auteurs de ces violations ?
Encore une fois, la majorité des violations des droits de l'homme commis au territoire de la RDC sont les agents étatiques. 59% des violations enregistrées par les bureaux conjoints ont été commises par les agents étatiques. Notamment, les principales auteurs dans tous les territoires de la RDC et le PNC.
La police nationale.
La police nationale. Mais dans les territoires en conflit, c'est la FRDC spécifiquement. Parmi les groupes armés plus actifs, encore une fois, c'est les FRPI Aituri qui a commis le chiffre plus élevé de violations des droits de l'homme contre la population de l'RDC.
Donc, parmi les groupes armés, c'est encore les FRPI.
Oui, ça c'est une tendance constante presque tous les mois.
Est-ce qu'on peut avoir les détails sur la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales liées à la restriction de l'espace démocratique et politique?
Notre bureau a documenté 94 violations des droits de l'homme et libertés fondamentales qui ont des relations avec l'espace démocratique au mois de novembre. La chiffre depuis début de l'année, c'était 840 violations. Ça veut dire encore une augmentation par rapport du mois d'octobre et un chiffre très très élevé. C'est trois fois plus de violations des droits et libertés fondamentales que dans toute l'année passée. Ça veut dire l'espace politique continue à diminuer et ça aura un impact direct dans la crédibilité du processus électoral et dans la condition du dialogue politique.
Donc vous ne pensez pas que cet espace politique est en train de diminuer par rapport à l'échéance du 19 décembre 2016?
Ça c'est la tendance de toute l'année, l'espace politique pour l'opposition, la société civile et les médias continuent à diminuer.
Dans vos rapports, vous ne donnez pas que les points négatifs, il y a également des points positifs, notamment par rapport à la lutte contre l'impunité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce côté-là?
Oui, nous avons enregistré au moins 5 membres de la FRDC et 3 membres de la PNC qui ont été condamnés pour violation des droits de l'homme. Nous avons une très bonne collaboration avec les autorités judiciaires et avec l'auditeur militaire et nous continuerons à donner notre appui, même aussi dans le cadre des activités de promotion. Notre bureau a fait au moins 30 activités dans le territoire de l'RDC pendant les mois de novembre.
Vous avez également fait allusion à la déclaration de 20 jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
La déclaration de la Commission des droits de l'homme et peuple africain à 20 jours, c'est important parce que condamne les événements de septembre et l'usage excessif de la force. Dans le même cadre, le rapporteur spécial des Nations Unies pour la liberté des manifestations a aussi dictaminé, a jugé que l'interdiction générale de manifestation à la ville de Kinshasa était disproportionnée et injustifiée et a demandé de soulever et mettre en place les conditions pour garantir le droit à manifestation pacifique pour tous les citoyens de l'RDC, comme est prévu dans le traité des droits de l'homme international et la constitution congolaise.
Alors, la tension est vraiment en l'air en République démocratique du Congo à l'approche de la date 19. Comment le bureau conjoint se prépare par rapport à cette échéance?
Nous avons renforcé notre équipe dans les principales villes du pays où il y a des tensions politiques, ça veut dire Goma, Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. Nous sommes prêts pour déployer notre équipe qui fera le monitoring et qui va documenter les violations des droits de l'homme et la violence, soit du côté qui soit. On rappelle à l'application du cadre constitutionnel et des droits reconnus à la Constitution, mais aussi à la manifestation en tout cas pacifique.
Radio Capi fête ses 15 ans dans quelques mois. Par rapport à la liberté d'expression, est-ce que le bureau conjoint a un mot par rapport à cet anniversaire?
Je vais profiter de l'occasion pour féliciter Radio Capi pour le 15e anniversaire et pour le très bon travail qu'il fait, qui crée un espace pour la liberté d'expression et à la RDC. J'espère que tous les auditeurs de Radio Capi sont prêts à célébrer avec Radio Capi cet anniversaire. Donc Radio Capi, c'est un symbole de la liberté d'expression et fait un très bon travail. Comme on dit toujours, Radio Capi, la meilleure radio du monde. On va célébrer aussi le 20e anniversaire de la présence constante des Nations Unies et des droits de l'homme à la RDC et nous sommes prêts à continuer à travailler avec les citoyens, à côté des citoyens et accompagner les autorités dans le travail pour créer un espace démocratique et des conditions de respect des droits de l'homme pour tous les femmes et les hommes et les citoyens de l'RDC.
José Maria Ranaz, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Nous restons à Kikwit où nous nous intéressons aux efforts d'appropriation communautaire du programme Village Assainis à Kikoti, à près de 3 km de la ville de Kikwit. Les habitants ont aménagé un puits d'eau potable par forage alimenté par un groupe électrogène grâce à l'appui de l'UNICEF. Jean-Pierre Lali Coco revient sur cette expérience réussie et les avantages qu'elle procure à la population. Suivez son reportage.
Fini des longues distances pour chercher l'eau suyée des sources. L'eau potable coule à flot dans le village. Les habitants s'approvisionnent dans 8 bornes fontaines installées. Liévin Malemba, président du comité du village, évoque l'appropriation du projet et les avantages.
Au lieu que tu sois maïa bamba, tu te kaka maïna 100 francs. Et bon, mbongo wana, ezo salisabiso, osomba, carburant, avantage, eza ebele. Population ya kikocha babana ki kozwa maïna distance ya 3 km. Bitumba ezala ki kuna na maï, ba violence, banda village a feni abimise biso mai na mboka to sepeli makati.
L'ingénieur Célestin Luntala, administrateur roche de l'UNICEF Bandundu, fournit les données techniques de l'ouvrage.
Là, on a fait un forage. Maintenant, on a installé la pompe à 127 mètres. Cette pompe refoule de l'eau vers les réservoirs d'ici là-bas. Là, nous avons 4 réservoirs de 5000 litres. Alors, l'eau se trouve là-bas maintenant et desservie dans la communauté. Alors là, vous avez un groupe électrogène de 12,5 kVA qui alimente de l'énergie de la pompe parce que la pompe est électrique.
L'UNICEF et le gouvernement veulent étendre ce genre de projet dans les villages de la RDC pour atteindre l'un des objectifs du développement durable, à savoir fournir de l'eau potable en milieu rural d'ici 2030.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Restons sur la contribution de l'UNICEF en RDC avec cette question posée au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de mercredi dernier à Florence Marshall, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies en RDC. Suivez.
Vous avez 70 ans et vous êtes au pays depuis 1963. Quel bilan faites-vous de votre présence au pays et surtout qu'est-ce qui n'a pas marché?
Ce qui a marché, ce que vous savez, les choses dans lesquelles on a vu le plus de progrès, c'est notamment l'accès à l'école pour les jeunes enfants, que ce soit les garçons ou les filles, et puis aussi les couvertures de vaccination pour les enfants. Ce sont vraiment les deux domaines dans lesquels on peut enregistrer des succès. Il y a aussi le programme des écoles et des villages assainis de l'UNICEF, qui sont aussi des programmes qui apportent des bonnes pratiques dans les villages et dans les écoles dans lesquelles ils sont mis en œuvre et qui permettent de réduire les taux de maladies et de mortalité. Donc le taux de fréquentation des écoles pour les jeunes enfants reste à mon avis l'un des points forts de la présence de l'UNICEF, mais évidemment aux côtés du gouvernement congolais il y a encore beaucoup à faire, notamment pour protéger les droits de l'enfant.
Magazine des Nations Unies, Portrait du jour.
Je suis Célestin Luntala en Kibiakanda, marié, père de 5 enfants. Par rapport à ma formation, je suis d'abord ingénieur en bâtiment et travaux publics de l'IBTP Matadi. Et puis je suis licencié à eau, hygiène et assainissement de l'université DESI. Donc c'est l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou, Burkina Faso. Et après, je suis aussi expert en gestion des déchets. Nous appelons ça gestion des excrétats. Expérience professionnelle avant l'agence, j'étais à la Régie des eaux, où j'ai travaillé pendant 20 ans. D'abord pour la production, j'étais chef de production, et puis je suis passé chef de section contrôle de la qualité de l'eau dans toute la province de l'ex-Bas-Congo. Et après, je suis allé dans une ONG qui s'occupait de l'eau et de l'assainissement. C'est à partir de là que j'ai eu l'offre de l'UNICEF en 2007. Je suis à l'UNICEF depuis 2007. Par rapport à ma fonction, actuellement à l'UNICEF, je suis administrateur chargé du programme eau et assainissement. Donc c'est là où intervient le programme école et village assainis et aussi les urgences en matière de l'eau et assainissement, dont toutes les épidémies liées à l'eau et assainissement. Bon, ma tâche quotidienne, c'est d'abord, quand je me lève le matin, c'est d'abord faire le footing, le sport. Déjà, j'ai fait au moins 30 minutes chaque jour. Et après, je fais ma prière, je descends au bureau. Mon travail, c'est plus accompagner les partenaires étatiques et non étatiques dans les ONG pour pouvoir voir comment mettre en œuvre ces programmes et comment faire la promotion comportementale par rapport à l'hygiène et l'assainissement. Les temps libres, bon, c'est souvent les soirs après le boulot, mais souvent c'est le week-end parce que pendant toutes les journées de la semaine, on est presque pris toute la journée. Mais c'est plus le week-end où je me divertis avec les enfants, les amener quelque part pour se divertir. Et les dimanches, on est à l'église parce qu'on a aussi des activités à l'église. Mes préférences, c'est la musique et les sports, toute la musique. Je n'ai pas de choix, parce que même la musique profane, là, il y a aussi des choses qui... les réflexes n'arrivent pas à attendre, je vais voir. Et je termine d'abord par les perspectives. Par rapport aux perspectives, je sais qu'on a encore à l'UNICEF, mais parmi mes perspectives, c'est de voir comment faire en sorte que le secteur de l'eau, hygiène et assainissement soit intériorisé dans la communauté. L'eau, hygiène et assainissement. Et surtout les côtés assainissement, parce qu'il y a encore des problèmes. Nos communautés sont un peu en deçà par rapport au comportement, par rapport à l'assainissement. Donc moi, ce que je veux faire,
décidé de devenir un jour un professeur du cours d'assainissement dans toutes les grandes universités de la République, voire même hors de la République. C'est ainsi que je suis en train de me préparer pour finaliser des masters et commencer maintenant à publier pour arracher les titres de doctorat et enseigner pour faire inculquer cette matière dans la communauté. Merci aux auditeurs de Radio Okapi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Une date à retenir dans vos agendas, le 20 décembre, journée internationale de la solidarité humaine. C'est la fin de notre magazine préparé par Honoré Misenga Kalala, coordonné par Jean-Pierre Elali Ikoko, mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Moi, Suzanne Zobo-Audra, j'ai eu le plaisir de vous le présenter. Merci, à la prochaine.